Salut à tous, Jérémy Royot pour Scepticisme Scientifique. Aujourd'hui, je suis avec Karim de la chaîne YouTube Politicon. Salut.
Bonjour, salut.
Voilà, bah merci d'être parmi nous pour cet épisode.
Bah de rien, et puis bah merci hein, pour l'invitation du coup.
Avec plaisir. Alors, donc tu as une chaîne qui est consacrée donc essentiellement à la politique et à la philosophie.
Ouais.
Bon, il y a différents contenus qui sont abordés. Moi, ce qui m'avait intéressé par rapport à ta chaîne, et ce qui m'a donné envie d'interviewer, c'est que tu touches à des thèmes assez différents et tu. C'est surtout la vulgarisation, c'est qu'il y a il y a différents types de vidéos sur ta chaîne. Il y a des vidéos qui vulgarisent un livre ou un type d'idée, les idées d'un auteur. Donc ça, c'est vraiment très, très pédagogique et assez. Voilà, assez pédagogique. Et tu as des vidéos aussi qui traitent un peu plus de sujets un peu plus politiques. Voilà, qui s'appellent Politicon, c'est là. Donc les autres,
C'est
c'est
ça, ouais.
les dictos,
Ouais.
hein, celles où tu traites d'un livre, ça c'est plus les
C'est ça, ouais.
dictos.
De... Ouais.
Voilà. Et après ça, tu as un autre format qui s'appelle Capsule.
Bah ouais, bah si tu veux, j'ai un peu refait mon ma typologie des formats en fait, ouais, comme tu disais. Donc j'ai un premier format, donc Politicon, où c'est un peu ce que j'appelle un peu l'émission principale, c'est où je présente, en essayant de pas être trop dense, même si c'est parfois difficile. En tout cas, le but, c'est d'essayer comme je dis souvent, de simplifier, mais sans être simpliste, quoi. Donc des théories politiques, de philosophie. Plus souvent, et puis de sciences humaines parfois. Et donc Politicon, c'est l'émission principale où je vais plutôt présenter un grand courant de la pensée, de la théorie politique, comme par exemple le libéralisme, l'anarchisme, etc. Ou alors des thèmes de théorie politique. Hein. J'ai fait quelque chose sur l'allocation universelle, par exemple. Et donc, ouais, ça, c'est l'idée, c'est de présenter des grands thèmes ou des doctrines de pensée politique. Et ensuite, un autre grand format qui est des dictos, là où c'est plutôt une sorte de fiches de lecture vidéo d'un classique de la pensée politique. Donc où j'ai pu parler de Machiavel, j'en ai une quinzaine, enfin même plus maintenant, de Machiavel, de Judith Butler dernièrement, de Montesquieu, etc., quoi. Et j'ai deux petits formats que j'ai créés du coup pour... Parce que bah, forcément, l'écriture des épisodes et le tournage, tout ça prend beaucoup, beaucoup de temps avec la
Ben ça,
lecture,
c'est clair.
l'écriture, tout ça. Et comme j'avais envie d'essayer de proposer quelque chose de manière assez régulière, donc je me suis dit que j'allais faire des petits formats. Donc le premier, c'est Capsule, où je présente plutôt des concepts de la pensée politique, où par exemple la différence entre république et démocratie, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre sur l'état d'exception par exemple, où du coup c'est un concept, donc c'est plus rapide à présenter. Et puis un autre format que j'ai créé dernièrement aussi, où c'est plutôt une sorte de petite, comme on dit, dans le une curation de livres, enfin de proposer en fait des livres qui me semblent intéressants, qui viennent de sortir en fait, une sorte de journal des sorties de livres en sciences humaines ou en philosophie politique que j'ai lu ou que j'ai pas lu. Enfin, j'ai essayé de privilégier plutôt ceux que j'ai lus, mais voilà. Donc pour les quatre formats.
Ok. Et donc c'est ta chaîne, tu l'as créée il y a à peu près 2 ans,
Ouais, c'est ça va faire
si je
2 ans
regarde les dates.
et quelques mois. En avril 2016, ouais.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette chaîne?
En fait, au départ, j'avais pas forcément l'idée de faire quelque chose sur la philosophie politique. Je voulais plutôt faire quelque chose sur la culture générale. En fait, j'étais en train de passer des concours de bibliothécaire.
Ok.
Et il y avait, y a, voilà, la culture générale était importante là-dedans. Et je me suis dit, tiens, bah, ça pourrait être intéressant de proposer quelque chose là-dessus. Et puis, au final, dans les idées, quand j'ai commencé à rassembler des idées, bah, je me rendais compte que les idées que je rassemblais tournaient toujours autour de la pensée politique, puisque bah, c'était un peu ma spécialité, entre guillemets, puisque j'ai fait un master, enfin, un master 1 et un master 2, où mes deux mémoires ont porté sur ces sujets-là, en fait. Et donc, bah, voilà, je me suis dit, bon, autant que je recentre, plutôt que de partir un peu dans tous les sens, que je recentre sur quelque chose que je maîtrise plus ou moins, en fait. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur la chaîne. Et puis l'idée, c'était aussi c'est vrai que c'est une justification qu'on trouve assez souvent pour les personnes qui se lancent pour faire des vidéos, c'est de proposer quelque chose qu'ils ne trouvaient pas avant, en fait, sur YouTube, par exemple. Il y avait peu de choses. Il y avait des choses en philosophie, mais pas forcément des choses en philosophie politique, quoi.
Non,
Et
effectivement.
je voulais faire quelque chose aussi d'assez détaillé, d'assez précis, puis qui soit fidèle aux théories, pas de la simple vulgarisation, mais plutôt de présenter des thèses complètes, mais de manière simple. Parce que voilà, l'idée, c'était pas de non plus de partir dans un jargon et de voilà. Donc voilà, en gros, pour.
C'est vrai que c'est pas un type de contenu en français qui existe énormément. Il y a quelques chaînes de philosophie, comme tu le disais, hein, comme la chaîne de Monsieur Phi, mais c'est vrai que philosophie politique, c'est assez aride du côté francophone. Si on veut voir des contenus un peu développés là-dessus, on est souvent obligé de regarder des longues conférences ou voir des
Oui,
contenus en
c'est ça,
anglais, quoi.
c'était plutôt ça, ouais, ou des choses de France Culture qu'il y avait, mais bon,
C'est
c'était
ça,
ouais,
France
plus en
Culture.
anglais, quoi.
C'est ça qui est bien avec ton format aussi, c'est que ça reste un format qui est assez court, même tes vidéos les plus longues, entre guillemets. Souvent, on a 10-15 minutes, quoi, hein, pour les
Oui, c'est
vidéos
ça, ouais,
longues.
c'est je vais jamais dépasser les 20 minutes, je crois, ouais.
Voilà, et ça, c'est vraiment chouette parce je pense qu'il y a un phénomène un peu embêtant, entre guillemets, pour les gens qui sont sur YouTube, c'est qu'au fil des années, il y a eu tellement de nouveaux contenus que, en fait, à moins d'être chômeur enfermé chez toi, ça devient très dur de suivre même les
Ah
chaînes qu'on aime bien,
oui,
quoi.
c'est
Du coup, avoir
sûr,
des
ouais.
vidéos comme ça qui en 10-15 minutes sont capables de vulgariser les grands points d'un livre ou d'un penseur, bah, c'est vraiment chouette pour nous, enfin pour moi en tout cas. Je parle pour moi, j'imagine que c'est pareil pour les autres, quoi.
Non, mais ouais, c'est sûr que c'est ouais. Parce que de toute façon, si on. Déjà, je trouve que enfin, les vidéos peuvent être assez denses, donc c'est peut-être. Mais si c'était plus long, enfin, on peut décrocher facilement, quoi. C'est ça aussi que.
C'est ça. Bon, moi, j'arrive
C'est.
assez bien à regarder des vidéos plus de cours universitaires qui sont assez longues. S'il y a un minimum de slides ou de texte
Oui,
avec
ça,
qu'on peut suivre,
après,
mais.
ouais, là, au niveau de la. C'est ça, au niveau de la forme, il faut que ça reste
Ouais,
attractif, quoi. Pas comme une.
mais c'est vrai
Pas
que des
comme une
vidéos de
conférence.
youtubeurs, si c'est trop long, moi aussi je décroche, quoi. Si c'est des trucs
Ouais,
qui
non, c'est
durent
sûr.
30 minutes.
Ou alors faut se dire qu'on va prendre du temps, ou alors activer
Ouais.
la vitesse un peu, mettre en 1,5 à la
Ouais,
vitesse.
c'est ça.
Pareil, ça m'arrive souvent.
C'est ça.
Mais ouais.
Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur comment est-ce qu'on peut finalement présenter correctement des théories des théories ou des idées de philosophie politique d'une manière plus ou moins objective, sans tomber facilement dans l'interprétation ou dans des visions plus politisées de ce qu'on pourrait présenter. Est-ce que c'est difficile?
Bah disons que alors la manière dont se procède en fait c'est la même manière que en n'utilisant pas de jargon et enfin en tout cas en l'explicitant si besoin, mais la manière dont je procède c'est tout simplement la manière que j'ai utilisée en faisant mes mémoires en fait, c'est-à-dire en faisant les lectures, en confrontant les commentateurs. Par exemple, pour la vidéo sur, j'ai fait une vidéo dernièrement sur Adam Smith, qui est présenté dans la vulgate d'Adam Smith comme un grand défenseur d'un libéralisme complètement sans entrave, etc., avec l'idée de main invisible, qu'il faut laisser tout faire. Et si on va voir dans. Ça, c'est un peu la vulgarisation vulgaire d'Adam Smith, on va dire. mais voilà, si on va voir dans les textes lui-même et qu'on confronte différents commentateurs, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, qu'il ne faut pas juste lire par exemple La Richesse des Nations, mais qu'il faut aussi voir son autre grand livre, et que Smith considérait d'ailleurs comme son grand livre, La théorie des sentiments moraux, et le mécanisme de sympathie, etc. Donc voilà, c'est du coup en confrontant les lectures du livre lui-même, plus les commentateurs, où je vais essayer de trouver la chose la plus, enfin qui fasse entre guillemets le plus consensus entre les différentes interprétations pour du coup la faire la refléter dans la vidéo que je vais faire. Par exemple, pour le postmodernisme, la vidéo que j'ai faite sur le. C'était un capsule, alors j'avais prévu un petit format sur le postmodernisme, alors ça a duré plus longtemps que prévu. Mais voilà, pour un terme qui est si ambigu actuellement, qui est utilisé à toutes les sauces, Donc voilà, j'ai pris plusieurs interprétations différentes, essayé de toutes les présenter, enfin en tout cas essayer d'être le plus complet possible. Et ensuite, bon bah éventuellement en fonction des idéologies politiques de chacun, chacun va faire après sa propre opinion. Mais en tout cas d'être le plus complet possible dans les interprétations différentes qu'il y a sur un courant ou sur un auteur aussi, quoi. Donc c'est de cette manière qu'on peut essayer d'être objectif, même si évidemment de temps en temps, moi je vais m'arriver de critiquer plus un courant qu'un autre, par exemple dans une vidéo, et ça va être une manière aussi de refléter ma propre idéologie politique entre guillemets. Mais en tout cas, en essayant d'être toujours le plus fidèle aux auteurs, quoi, et en utilisant les commentateurs et en essayant de pondérer les différents commentateurs, voilà.
Et est-ce que tu penses que, parce que moi je ne connais pas grand-chose en philosophie, enfin en philosophie politique spécifiquement, en politique, est-ce que tu penses qu'on peut traiter un sujet concret, donc ce que j'entends par là, c'est pas juste faire une présentation de ce que dit un auteur dans un livre, mais traiter une question concrète, une question politique actuelle, en faisant appel à des théories existantes. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça en restant objectif ou plus ou moins neutre? Ou est-ce que c'est un vœu pieux et que c'est juste quelque chose qui n'est pas possible en fait?
Alors après, ça va être de la manière dont on va définir le fait d'être objectif. Disons que quand on va toucher des questions politiques, ça va dépendre si on se place sur un niveau descriptif, si on veut décrire un état des lieux de la politique, par exemple. Enfin là, ça va être plutôt du côté des sciences politiques pour le coup. Quels sont, je sais pas, les résultats des votes pour telle élection et comment on peut les interpréter. En faisant des études à partir d'enquêtes sociologiques, de sondages, pour parler d'un tas d'outils. Mais du côté de la philosophie politique, on va être plutôt sur un versant normatif. C'est-à-dire que là, forcément, il y aura un point de vue à partir de principes politiques qu'on juge justes, enfin en tout cas qui sont désirables politiquement. Donc voilà, il y aura deux versants, un versant descriptif pour voir le monde, l'état tel qu'il est, enfin en tout cas ce serait du coup pour le coup des énoncés scientifiques. Et du côté de la philosophie politique, on va plutôt chercher à produire des énoncés normatifs, c'est-à-dire pour pouvoir penser une société juste. Et comment on les pense? Bah, c'est en les confrontant à des principes de justice. Par exemple, pour un libertarien, le principe de justice fondamentale, enfin, après, c'est à interprétation, mais ça sera le fait qu'on ne doit pas, on doit pas faire d'interférence contre la personne, et que la personne est complètement propriétaire de soi-même et qu'on peut pas la vu, enfin, c'est, après, c'est, qu'on peut pas utiliser cette personne pour changer la situation d'autres personnes qui sont un peu moins favorisées, par exemple, dans la société, quoi.
Ouais, c'est ça.
Pour d'autres idéologies, ce sera plutôt l'égalité ou l'autonomie. Enfin, voilà, en tout cas, voilà, c'est à partir de ces principes fondamentaux pour chaque idéologie qu'on va juger des changements possibles pour la société, en fait. Donc il y
Ouais,
a
c'est ça.
ces deux. Et sur ma chaîne, évidemment, c'est plus une chaîne sur la philosophie politique. Et sur la philosophie politique, en fait, c'est tout simplement, il y a évidemment, quand on parle de philosophie, tout est à débattre et tout est toujours questionnable. Mais en gros, l'idée de la philosophie politique, c'est de chercher qu'est-ce qu'une société juste. Et la grande question, c'est comment on peut faire avec des gens si différents, avec des opinions si différentes, des désirs différents de vivre. Chacun avec des valeurs différentes, bah comment on peut vivre ensemble quand même, quoi. Donc ça, c'est un peu la grande question de comment on va faire coexister des êtres humains qui vivent en société avec tant de différences. Et du coup, bah là, on est forcément sur d'un point de vue normatif, et de ce côté-là, c'est impossible d'être neutre, puisqu'on va forcément partir d'un principe de quelque chose qu'on va juger juste, en fait.
C'est
Et
ça,
ce qui est jugé juste, et on peut pas le on peut pas le définir scientifiquement, par exemple. Sinon, on est dans le scientisme, ou on est dans dans
Tout à fait.
l'idéologie, dans un sens fort, c'est-à-dire où on va partir de la réalité, en tout cas de la réalité, ça c'est un grand mot aussi, mais de la réalité telle qu'on la pense pour aller porter des jugements normatifs, en fait.
Oui, c'est ça, ce sont des postures philosophiques et pas des postures scientifiques à ce moment-là. Oui.
Voilà, parce qu'on va être dans le normatif, dans le politique, c'est-à-dire dans ce qu'on désire de juste.
Du coup, ce qui rend les débats finalement à ce moment-là autour de tous ces thèmes compliqués, c'est que souvent les gens qui se réfèrent à certaines valeurs, certains courants de pensée, bah, souvent c'est pas dit dans la discussion, donc ils vont dire. Ils vont attaquer ce que dit quelqu'un d'autre dans une discussion en disant ça c'est pas bien ou ça a des conséquences négatives pour ceci ou cela et sans citer le fait qu'ils se réfèrent à une certaine posture philosophique bah, comme tu parlais des libertariens tout à l'heure, bah, les libertariens effectivement vont attaquer certaines positions où on va voir entre les lignes de leurs articles sur des sujets plus ou en partie scientifiques, on va voir ressortir une certaine lecture du monde qui est spécifique aux libertariens, mais qui est pas forcément dite en fait, elle reste un peu un non-dit comme ça dans les débats. Et ceux qui répondent à ces débats font souvent la même chose, donc ils répondent avec d'autres valeurs, mais
Oui,
sans
c'est
non
ça.
plus les exprimer. Donc ça devient vite assez
Ouais.
compliqué, je trouve, les
Et
débats.
du coup, le problème, c'est quand l'une des deux parties va se déclarer neutre, en fait. Alors que, du coup, si on se réfère à des valeurs, à ce qu'on pense juste, il n'y a pas de neutralité. Alors, ça ne veut pas dire que ça va, qu'il n'y a pas de neutralité, c'est-à-dire que tout n'est pas relatif entre ces valeurs. Mais c'est la manière dont on va défendre les principes et des jugements normatifs en fonction de valeurs qu'on souhaite défendre qui peut faire, entre guillemets, accorder plus de crédit à une théorie philosophique parce qu'elle sera plus en accord avec nos valeurs. Si on accorde plus de valeur, par exemple, à l'idée d'autonomie individuelle, il y aura forcément des énoncés normatifs d'autres personnes qui vont nous paraître moins justes. Et du coup, ça sera comment les rendre cohérents, ou est-ce qu'il faut les rejeter, est-ce qu'ils sont désirables en fonction des valeurs qu'on défend.
C'est ça.
Ouais.
Donc il y a moyen, je pense, dans les débats, mais c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, je trouve, enfin en tout cas dans les groupes ou les discussions que moi je fréquente au niveau du mouvement sceptique. Je trouve qu'il y a moyen de séparer un petit peu les faits des opinions dans un débat, d'essayer de rappeler les faits scientifiques, bon, quand il y a une part de faits scientifiques dans un débat par exemple, de rappeler d'abord les faits, quels sont les faits prouvés, les données objectives, et puis de dire sur base de ces faits, moi je propose telle ou telle chose, et là on rentre dans l'opinion, et que ça soit bien spécifié, la différence entre les deux. J'ai
Oui,
l'impression que c'est rare, finalement c'est assez rare de trouver ça, et en général les gens mélangent les faits
Ah
avec
oui,
leur
complètement, oui.
interprétation tout le temps, et
Oui,
c'est très
oui.
bordélique de s'y retrouver souvent dans les débats.
Bah, disons que c'est vrai que les arguments sont souvent de type il y a un jugement descriptif sur tel état du monde et on doit en inférer un jugement normatif. Bon, c'est un peu le nature. Enfin, en tout cas. C'est l'appel à la nature, en fait, c'est de dire ça se passe comme ça dans la nature, donc ça doit se passer comme ça. Alors que il y a plusieurs philosophes, hein. Il y a David Hume, ce qui est le plus connu pour avoir formulé et puis on pourrait trouver d'autres penseurs. Il y a un Poincaré dans la philosophie des sciences aussi, c'est-à-dire que à partir d'un énoncé descriptif, de manière purement logique, on ne peut pas inférer un énoncé descriptif à partir de. Donc il faut savoir faire la part des choses. On peut utiliser des énoncés descriptifs, évidemment, parce qu'on va juger qu'une telle chose est injuste. Par exemple, j'ai pas d'exemple en tête, mais on pourrait en trouver plein, évidemment. On va trouver un état du monde qui nous semble injuste, mais c'est pas en soi cet état du monde qui est injuste. On va le trouver injuste en fonction de valeurs et de
La
principes
valeur, ouais.
qui sont indépendants. Ouais. Donc
Oui, c'est
c'est
ça, c'est ça.
ouais.
Et les gens ont tendance à oublier parfois que des principes qui leur semblent vraiment aller de soi bah, sont quand même des principes en partie subjectifs. Les questions de à quel point est-ce qu'on doit respecter les autres, ne pas
Voilà,
abuser des autres, etc. Bah, ça reste des principes. Alors, c'est des principes qui sont devenus assez consensuels, mais c'est pas des absolus non plus.
Et qui sont et du coup, c'est ça, c'est ce genre de principe qu'on va discuter dans la pensée, dans la philosophie politique.
Ouais, c'est
C'est-à-dire, on
ça.
va essayer de défendre voilà. Ouais. À partir. Oui, vas-y, ça.
Et donc, tu citais une de tes vidéos qui est un très bon exemple des problèmes qu'on vient de citer, c'est les questions des débats autour du postmodernisme,
Ah oui.
qui est vraiment, je pense, un magnifique exemple, parce que c'est un sujet qui est très souvent malmené aujourd'hui, essentiellement par des gens qui sont dans un débat politique dans lequel ils essayent de défendre une posture par rapport à des événements très concrets et où souvent ils vont chercher cette question du postmodernisme pour défendre ou pour attaquer leurs opposants, alors que souvent, enfin, c'est une sorte d'instrumentalisation et souvent ils présentent le postmodernisme soit en prenant des morceaux qui les arrangent ou des personnes qui les arrangent et qui ne représentent pas tout le mouvement, ou alors en déformant carrément, en faisant des caricatures du postmodernisme pour défendre des propos qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec
Oui, c'est ça,
ce
oui,
qu'on est
c'est
postmodernisé.
le mot est devenu tellement ambigu et ça a été enfin quand j'ai travaillé sur la vidéo, c'était extrêmement difficile de démêler toutes les acceptations et c'est vrai que c'est devenu plus entre guillemets, une insulte qu'un terme qui permet de recouvrir une école de pensée, de toute façon.
Ouais,
Et
tout à
ça
fait.
peut arriver. Je pense qu'on peut définir de manière un peu philosophique le postmodernisme. Moi, j'ai fini par dire que c'est plutôt une méfiance envers, du coup, comme je le disais, les promesses de la modernité. Alors après, la modernité aussi, c'est quelque chose qu'il faut définir. C'est pas quelque chose d'uniforme et de. Je pense qu'on pourrait retrouver des thèses qu'on appelle postmodernisme parmi les
Les
modernes.
modernes, oui, bien sûr.
Donc voilà, c'est forcément, de toute façon, quand on va accoler un terme en isme devant quelque chose qui est divers, ça va être toujours compliqué de faire la part des choses. Mais il y a d'autres mots qui sont utilisés de manière aussi un peu. Qui servent d'insultes, par exemple comme le néolibéralisme. Je pense qu'il y a une acception qui est souvent utilisée en termes d'insultes assez commode pour caricaturer des positions adverses, mais c'est aussi un terme qui a une vraie profondeur philosophique, en tout cas pour décrire un état de la pensée et un état politique du monde depuis 30 ans, par exemple. Donc il y a les. C'est comme le libéralisme, par exemple, c'est un mot qui est utilisé encore. Enfin, voilà, ça, il est proche, hein, néolibéralisme, libéralisme. Mais c'est des mots qui sont utilisés dans des acceptions, on va dire, de théorie politique et qui ont tout leur sens, et puis qui servent aussi souvent de moyens commodes de se débarrasser de l'adversaire. Ouais. Et postmodernisme, hein, c'est encore plus, je pense d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, voilà.
C'est un peu comme le mot capitalisme aussi finalement qui est
Oui, c'est ça, oui.
que ça
Alors
tout le monde parle du capitalisme surtout pour le critiquer mais finalement la plupart des gens ne savent pas vraiment ce que ça veut dire capitalisme quoi.
Voilà, alors qu'on peut en débattre de manière dans la théorie politique. Les marxistes vont avoir une acception du capitalisme, enfin, et puis même au sein des différents marxismes, parce qu'il y en a plusieurs, il y aura différentes manières de le penser, ensuite il y aura d'autres écoles en économie, etc. Donc après, voilà, tous les débats, ça, pour le définir, sont tout à fait légitimes pour le penser. Mais après, il ne faut pas que ça serve de raccourci commode pour.
Du coup, ça demande pour pas raconter n'importe quoi, ça demande de faire un effort pour aller s'informer sur le sens des choses et les détails de ce qu'on utilise dans les discours. Ce qui est aussi souvent une chose qui manque, c'est aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de le faire, hein, mais
Bah oui, c'est ça, oui, non, mais
c'est.
c'est pour ça que c'est dans le militantisme, enfin, évidemment, dans des choses où des principes et des valeurs morales ou politiques vont s'entrechoquer, hein, pour le dire d'une manière un peu. Forcément, voilà, si on n'a pas toujours le temps d'aller voir les informations, on a. Si, voilà, c'est pour. Après, c'est aussi pour ça que je me dis que la chaîne que je propose peut être utile pour prendre un peu de temps pour se dire, bah tiens. Adam Smith, c'est peut-être pas un méchant capitaliste. Bon, peut-être qu'on va pas, on va pas. Il est peut-être pas. On peut toujours l'attaquer sur des choses, sur certaines choses, mais pas celles sur lesquelles on pense habituellement, par exemple. Mais voilà, essayer d'être le plus, d'avoir le principe de charité envers les auteurs ou envers les pensées politiques, c'est-à-dire à ce qu'elles réfèrent vraiment et pas en utilisant des hommes de paille ou. Voilà.
Ouais, tout à fait. Ouais, ce qui demande un vrai travail, quoi. Mais c'est vrai que ce
Mais
genre de
du coup,
vidéo, c'est. Pardon, je te coupe, vas-y.
Non, non, c'est. Bah, mais effectivement, le souci, et c'est un souci politique, ça aussi. Hein. Ça serait, enfin, moi, je pense que ça serait désirable, pour le coup, pour pouvoir avoir des débats de qualité, que les gens aient le temps. Après, faut qu'ils aient l'envie aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses, hein, forcément, qui rentrent
Voilà,
en jeu.
il faut les deux. En fait, il faut la
C'est, ouais.
motivation d'aller se renseigner et puis il faut prendre le
Et
temps de
le
le
temps
faire,
de le
effectivement.
faire, ouais.
Et c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et je pense qu'il y a aussi un effet, enfin, une sorte d'effet de groupe ou une sorte d'effet d'effet social qui fait que il y a certaines théories ou certains concepts qui deviennent des clichés utilisés dans
Ouais,
certains
tout à fait,
concepts, dans certains
ouais.
cadres militants. Et du coup, tout le monde apprend un peu par cœur ces clichés, ça devient une sorte de culture comme ça de groupe, et on les utilise après comme argument sans jamais avoir soi-même été se renseigner sur le sens des choses. Il y a une autre vidéo que tu avais fait qui est un super exemple de ça, tu as fait une vidéo sur Derrida, sur la déconstruction.
Ah oui.
Je trouve que c'est un très chouette exemple aussi parce que chez Derrida, il y a un peu comme chez Lacan, il y a cette espèce de rejet d'une certaine manière d'écrire rigoureux, enfin considérée par beaucoup de gens comme rigoureuse, claire, précise. Et eux font volontairement une sorte de pied de nez à ça pour des raisons philosophiques qui leur appartiennent. Et souvent, j'ai vu des gens, et j'ai fait moi-même ça à une époque d'ailleurs, donc je me jette la pierre sur moi-même aussi, on peut en venir à utiliser ces exemples en disant, bah oui, ces gens, comme ils écrivent d'une manière incompréhensible, bah d'office, c'est juste des charlatans et des gens qui racontent n'importe quoi en fait. Alors que cet argument, enfin qui est aussi tenu par rapport à Lacan, c'est un argument en fait qui ne dit rien du tout du fond de leur discours en fait.
Oui, c'est sûr, ouais.
Alors effectivement,
Mais, ouais.
ils ont une manière d'écrire qui est problématique et qu'on peut critiquer,
Oui, clairement,
mais ça ne dit rien de leur pensée en fait. Donc pour Lacan, bon, Derrida, je ne vais pas parler de sa pensée parce que je ne le connais pas très bien, mais pour Lacan, j'ai quand même pas mal lu Lacan. J'aime pas du tout les idées de Lacan, je trouve qu'elles sont très faciles à critiquer, mais pour critiquer Lacan, il faut d'abord traduire, entre guillemets, tout le blabla qu'il écrit dans ses bouquins, enlever une partie du discours qui en fait ne dit rien, et à ce moment-là, il te reste quelques idées qui sont en général des idées assez simples d'ailleurs et qui sont
Oui, et
pas
puis
très,
qu'on
pas
va pouvoir
très.
attaquer avec juste,
Voilà, et qu'on peut
enfin avec
attaquer, et qui sont bah, pour moi des idées pas très intéressantes. Hein, mais beaucoup de gens vont démolir Lacan juste pour la forme de son discours, mais en
Oui,
fait, ils
c'est
ne
ça,
savent
ouais.
même pas quelles sont les idées de Lacan, quoi. Donc, ça, je trouve que c'était un très bon exemple aussi. Avec ta vidéo sur les déconstructions, tu expliques justement quelle était l'idée philosophique ou militante derrière cette forme de discours que Derrida utilisait, quoi. Ça, c'est assez intéressant et je trouve que beaucoup de gens passent à côté de ça. Et ça, c'est vraiment très très pédagogique d'avoir ce genre de vidéo qu'on peut justement distribuer aussi dans des débats pour montrer un petit peu que, ok, c'est pas parce que le type il écrit d'une manière qui correspond pas au standard actuel qu'il raconte forcément n'importe
Oui,
quoi.
bien sûr. Bah sinon on lirait pas les textes, des textes bien anciens ou
Oui, tout à fait.
forcément. Mais
Ouais.
c'est vrai que sur la déconstruction, ça fait partie des termes très galvaudés, hein, c'est-à-dire et à la fois par ceux qui le défendent et par ceux qui l'attaquent, en fait. C'est-à-dire que dans le vocabulaire militant, il renvoie pas forcément au vocabulaire philosophique du coup de Derrida. Et ceux qui l'attaquent vont attaquer le vocabulaire militant, enfin, vont attaquer Derrida en utilisant la manière dont il utilisait dans le vocabulaire militant ou vice-versa, etc. Et donc voilà, c'est toujours bien d'essayer d'aller voir, de faire la part des choses, pouvoir comment des concepts philosophiques vont être utilisés bah, dans un sens philosophique ou dans un sens militant qui va être plus ou moins détourné, plus ou moins fidèle, qui va être utile hein, pour des stratégies politiques. Mais voilà, d'essayer de faire la part des choses, ça peut toujours être intéressant pour pas faire des attaques inutiles ou dans le vide et qui font perdre du temps dans le débat, en
C'est
fait.
ça, c'est ça. Bon, maintenant, je me pose une question plus de fond aussi. Bon, je pense que tu n'auras pas la réponse et je sais pas s'il y a une réponse vraiment très claire à cette question, mais je me demande toujours finalement si quand on tient des discours qui ont une orientation politique, est-ce que si on veut tenir un discours qui est rigoureux, nuancé, qui ne fait pas de caricature, comme ce qu'on vient de critiquer, est-ce que c'est vraiment efficace finalement? Est-ce que pour être efficace, être entendu, il ne faut pas justement être dans la caricature, être dans les émotions et pas être trop rigoureux, sinon c'est pas entendable de la part d'une partie de la population, quoi.
Alors, ouais, comme tu le disais, effectivement, je pense que là-dessus, il n'y a aucune réponse définitive. Disons que l'efficacité, ça va être une vraie discussion, bah, du coup, ça peut être une discussion de philosophie politique, c'est-à-dire quelle stratégie on va utiliser pour, pour attaquer, enfin en tout cas pour, oui, on va dire attaquer des positions politiques différentes. Est-ce qu'il faut utiliser la discussion rigoureuse ou est-ce qu'on peut utiliser des moyens qui vont pas forcément être liés à un débat rigoureux et égal entre deux parties? Ça, c'est une vraie question et on peut tenter d'y répondre en montrant que bah, forcément la politique, c'est toujours un lieu dans lequel on va, c'est la gestion du conflit, enfin, dans lequel ils sont présents, dans lequel les émotions forcément sont présentes, parce que si on va élaborer des principes de justice, dans le fait de trouver quelque chose d'injuste, on aura toujours une émotion, une colère ou quelque chose qui va toujours nous... Enfin, une colère plus ou moins forte, mais quelque chose qui va nous pousser vers l'idée que quelque chose est injuste, par exemple. Ensuite, il y a cette question des émotions, et puis ensuite, il y a la question des rapports de force. Forcément, dans la société, il y a des inégalités qu'on peut décrire de manière différente, des inégalités de classe, de genre, etc. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment penser à un débat rigoureux, enfin, en tout cas, en utilisant les règles du débat scientifique, par exemple, c'est-à-dire où on est d'égal à égal, est-ce qu'on peut vraiment penser à un type de débat de ce type-là, en sachant que, en premier lieu, on a des rapports de force entre les personnes, c'est-à-dire il y aura toujours des difficultés à une personne qui est minorisée dans la société à se faire entendre par les personnes favorisées, dominantes, enfin peu importe le
Tout à
vocabulaire qu'on
fait.
utilise. Donc, la question des stratégies politiques va être essentielle, enfin, en tout cas, essentielle là-dedans. Il y a, par exemple, dans la théorie politique, là, il y avait une des manières de... Bah, c'était mon mémoire de première, enfin, de Master 1, où j'ai travaillé sur la démocratie délibérative. Et c'était l'idée de sauver... En tout cas, c'était une critique de la démocratie représentative, en disant que dans la démocratie représentative, hein, pour le dire très très vite, les citoyens n'étaient pas vraiment impliqués dans la vie politique. L'idée de la démocratie délibérative, c'était que une décision politique serait juste si elle découle d'une discussion, d'une délibération entre des citoyens. Mais forcément, ça implique entre des citoyens, il y a entre des citoyens égaux. Mais forcément, c'est un idéal à atteindre, parce que dans la société, tous les citoyens ne sont pas égaux, ils n'auront pas tous le même vocabulaire, ils vont pas se sentir légitimes à parler, ils vont pas se... Donc voilà, quelle stratégie politique on va développer du coup pour atteindre cette égalité de délibération hein, qui est désirable, mais en attendant, on sent bien qu'il n'y a pas cette égalité-là. Puisqu'il y a des dominations, etc. Donc voilà, et quel autre moyen détourné on peut utiliser en attendant, par exemple, hein, c'est-à-dire bah, l'usage des émotions, de la colère, la manifestation, etc., pour se faire entendre, en fait, pour ceux qui ne peuvent pas se faire entendre. Mais c'est une question extrêmement vaste et compliquée.
Oui, c'est vrai que quand on voit le fonctionnement des élections et tout ça, par exemple, il faut pas être très très féru de philosophie politique pour voir assez rapidement qu'il y a des gros biais dans le système, quoi. Hein. Ne serait-ce que le fait pour être élu, il faut bon, si je pense à des élections présidentielles ou ici ou enfin en France ou dans d'autres pays, pour être élu, bah, il faut faire campagne. Pour faire campagne, il faut du fric. Et donc déjà ça, on a déjà un énorme biais. Ça veut dire que il faut que les gens, pour pouvoir avoir une chance de gagner, indépendamment de ce qu'ils ont à dire, il faut déjà qu'ils aient des énormes soutiens, pas mal d'amis dans le secteur et des financements derrière, quoi. Déjà ça exclut la majorité des gens, en fait.
C'est ça, donc la pensée politique peut essayer de trouver des moyens. Bah, la démocratie délibérative, ça a été un des moyens. Mais en proposant la solution, ça pose d'autres problèmes, en fait.
Ça pose d'autres problèmes, oui, c'est ça. Il n'y a pas
Donc,
de, y a pas de système qui pourrait être applicable de manière parfaite et qui réglerait tous
c'est
les
ça, ouais.
problèmes.
C'est pour ça que bah,
Sinon,
la pensée, enfin la philosophie politique est toujours extrêmement vivante et les débats continuent d'être extrêmement vifs et puis enrichissants. Enfin, ça continue toujours, quoi. C'est pas.
Tout à fait. Ok. À la préparation de l'émission, on avait aussi évoqué un autre thème qui est un petit peu différent, mais qui était celui du scepticisme. Puisque, voilà, balado, On s'intéresse évidemment à aux sciences et philosophies, mais avec un angle aussi sceptique. Et donc, ouais, tu m'avais évoqué l'idée de dire quelques mots du scepticisme antique versus scepticisme plus contemporain ou scepticisme scientifique, entre
Ouais,
guillemets.
alors, bah, peut-être pas versus, mais en tout cas d'essayer de discuter autour des points communs ou des différences qu'il pourrait y avoir entre ce scepticisme antique ou philosophique, en tout cas en des termes antiques, puisque le scepticisme après a plusieurs acceptions, hein, c'est comme libéralisme ou postmodernisme, etc. Et du coup, bah, les sceptiques plutôt contemporains au niveau de la zététique, tout ça, je trouvais ça intéressant de pouvoir discuter là-dessus. Puisque y a, dans les deux cas, enfin, on a l'usage du doute, mais le doute pour les sceptiques antiques, par exemple, c'est un doute assez radical dans le sens où il doit, pour simplifier, hein, mais il doit aboutir à la suspension du jugement, c'est-à-dire où on ne va pas. En fait, pour les sceptiques antiques, il n'y a aucune raison de préférer une thèse à une autre. Par exemple, il y a un exemple chez les antiques qui revient. Enfin, qui revient, c'est est-ce que le miel est quelque chose de doux? Donc voilà, pour un sceptique antique, il va répondre que il paraît doux, mais on peut pas le dire absolument que le miel est doux en soi, en fait. Par exemple, si quelqu'un a une maladie, il va le trouver amer. Si quelqu'un, je sais pas, si le miel a un peu pourri ou je sais pas quoi, il va être moins doux. Enfin voilà, il y aura toujours moyen de défendre deux thèses que les sceptiques ils vont juger équivalentes et il y a, et, enfin, voilà. Et ceux qui vont juger une des deux thèses vraies, les sceptiques vont les appeler les dogmatiques. Donc les dogmatiques dans le sens où ils vont pas dans le sens où ils ne vont pas débattre, pas dans un sens contemporain du dogmatisme, hein, c'est-à-dire où on s'interdit de rentrer dans un débat, mais dans le sens tout simplement où on va accepter une thèse pour vraie ou plus ou moins vraie. Mais eux, les sceptiques antiques, ils vont être extrêmement radicaux, c'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter à l'idée que bah, une chose n'est pas jugeable, vraie ou fausse, peu importe, en fait, ils ne se prononcent pas. Et c'est-à-dire, ils vont suspendre leur jugement, donc c'est les pokés, c'est le terme grec qu'ils utilisent. Et le doute, du coup, doit aboutir à la suspension du jugement, et comme dans la philosophie antique, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, ça aboutit aussi à une philosophie de la. Enfin, en tout cas. Comment dire, une philosophie de la vie, c'est-à-dire existentielle. Cette suspension du jugement nous permet de parvenir à une tranquillité de l'âme. Donc le mot grec, c'est l'ataraxie. Et cette tranquillité de l'âme, c'est ce qui est recherché au final. Du coup. Donc on va passer du coup d'un point de vue épistémique sur le savoir, c'est-à-dire on va considérer qu'en fait on ne peut rien savoir, on ne peut pas décider si quelque chose est vrai ou pas. Et le fait de ne plus décider, de ne plus débattre, de ne plus. Voilà, ça va nous permettre d'aboutir à cette tranquillité de l'âme. Donc forcément, ça pose plusieurs problèmes. C'est-à-dire, si on juge que rien n'est vrai ou rien n'est faux, d'ailleurs, hein, c'est même pas un relativisme, en fait. Enfin, c'est parce que, pour le coup, rien n'est jugé vrai, rien n'est jugé faux. Donc, tout ne se vaut pas, tout ne se vaut pas. Enfin, y a presque aucune position. Ça peut poser des problèmes pratiques, c'est-à-dire est-ce qu'on va juger vrai ou faux que j'ai un mur devant moi, est-ce que je marche devant ce mur, enfin voilà. Donc évidemment il y a plein. Donc voilà. Après certains vont dire qu'il est plus probable qu'il y ait un mur devant moi, mais on va s'en tenir seulement aux apparences sans juger au final que ces apparences soient vraies ou fausses, quoi. Donc ça c'est le scepticisme antique est assez radical. Et après dans la philosophie plus moderne, par exemple, avec un Hume, il y aura toujours une manière sceptique de considérer le monde, c'est-à-dire de douter de la véracité d'énoncés scientifiques, par exemple. Mais pour le coup, on va s'en tenir à de la probabilité assez forte que des choses soient plus ou moins vraies. Donc il faut quand même douter, mais s'en tenir à des probabilités de véracité. Voilà. C'est une manière un peu de déradicaliser le scepticisme antique. Donc c'est quelque chose que, par exemple, qu'on ne va pas forcément retrouver dans le scepticisme scientifique, c'est-à-dire où le scepticisme scientifique va plutôt se fonder sur la méthode scientifique, c'est-à-dire et va plutôt juger des choses probablement vraies ou probablement fausses. Et c'est des choses que les sceptiques antiques auraient jugées dogmatiques, par exemple,
Ouais, c'est
dans le
ça.
sens où ils vont se positionner. Voilà.
Maintenant, personnellement, moi, je me suis toujours demandé si les sceptiques antiques seraient restés dans leur posture philosophique s'ils avaient pu voir simplement les découvertes en termes de connaissances sur la nature qu'on a pu faire au fil de l'histoire humaine. Parce que je pense que le scepticisme scientifique, il est construit en partie là-dessus. Hein. Tu as parlé de la méthode scientifique, mais je pense que c'est pas évidemment il y a la méthode scientifique, mais c'est aussi la découverte de toute une série de connaissances sur le monde qui font qu'on a affiné notre capacité à penser, enfin on a affiné la précision de ce qu'on pouvait penser pouvoir connaître, et notamment je pense que assez récemment il y a aussi au niveau scientifique la découverte d'une série de lois importantes, je pense à la vitesse de la lumière par exemple. Et donc ces lois vraiment font partie d'une évolution aussi de la connaissance qui montre qu'il y a quand même des choses qu'on peut connaître très très bien en tout cas, enfin qui sont pas subjectifs, enfin qui sont pas très
Ouais, en
subjectifs,
tout
qui
cas
sont
qu'on
très
peut
précises
juger
quoi.
comme pourrait dire Hume, par exemple, probablement vrai ou en tout cas très proche
C'est
du
ça.
réel
Très
et
très
enfin en tout
proche
cas
du
de
réel
ouais,
en tout
c'est ça.
cas, parce que là, bon, pour la vitesse de la lumière par exemple, voilà, il y a une valeur extrêmement extrêmement précise avec un chiffre à rallonge. Voilà, ça c'est des valeurs, je pense pas qu'il y a personne qui remette en cause encore ces valeurs, en tout cas pas à un niveau de précision important, quoi.
Oui, c'est sûr.
Voilà,
Bah,
donc.
après, en philosophie des sciences, ça va plutôt être l'idée de savoir est-ce que cette valeur, en tout cas l'énoncé scientifique, la vitesse de la lumière a telle valeur, est-ce qu'elle est conforme au réel exactement, ou est-ce qu'elle est plutôt un modèle, ou est-ce qu'elle est plutôt quelque chose qui nous permet, qui est utile en fait? Bah, c'est tous les débats entre le réalisme scientifique ou l'anti-réalisme scientifique. Ou l'instrumentalisme, par exemple, pour un réalisme, en fait, un réaliste scientifique, les énoncés scientifiques sont conformes à la nature, au réel. Et c'est un peu la position que tu disais, c'est-à-dire, bah, on fait une des, bah, c'est un peu l'idée, c'est dans le réalisme scientifique, c'est de la méta-induction optimiste ou positive. Enfin, c'est quelque chose comme ça, je crois. C'est de dire que, bah, voilà, on fait des découvertes de plus en plus proches. Plus on fait des découvertes, plus on est proche d'expliquer le réel, de le décrire, etc. Alors que d'autres anti-réalistes, ils vont plutôt se dire que, bah, en fait, on change de paradigme, hein, par exemple avec Kuhn ou d'autres philosophes des sciences, où c'est plutôt des manières de se représenter le réel et on aura une autre manière. On était newtonien à un moment, on va devenir einsteinien à un autre, etc. Et après, bah, Einstein va être dépassé ou par d'autres paradigmes. Et donc ça, et après, il y a d'autres. Donc voilà, il y a ce débat entre réalistes et anti-réalistes. Où après, les anti-réalistes peuvent être instrumentalistes. C'est-à-dire, ils vont tout simplement se dire que, bah, la science, elle est utile juste pour faire des prédictions, mais on va pas juger sur la véracité en fait des énoncés scientifiques et ce qu'ils sont conformes au réel, quoi. Donc ça, c'est encore des débats qui sont vivants en philosophie des
Oui,
sciences.
c'est ça. Il y a des
Ouais.
personnes qui s'orientent un peu plus vers un certain relativisme aussi par rapport à ça, qui limite un peu, enfin qui adhère finalement à la méthode scientifique et au fait que c'est une méthode qui permet de se rapprocher du réel, mais qui refuse les conclusions ou en tout cas une part de précision des conclusions que nous on tire, et qui donc du coup arrive avec la même méthode à des conclusions un peu différentes. Voilà, ça c'est une position que je vois encore comme assez souvent dans des débats. Alors que bon, bah, personnellement, je pense que dans beaucoup de thèmes scientifiques, enfin où il y a des données scientifiques, on peut arriver à des conclusions alors, qui sont ok, pas d'une précision de 100%, mais d'un point de vue pratique, si on est à 99% au lieu de 100%, ça change rien en fait. C'est-à-dire que la
Oui,
conclusion
c'est
est la
ça,
même.
oui. Oui,
Même si on peut
oui.
dire que c'est pas une connaissance absolue, on va pas découvrir demain que la vitesse de la lumière, en fait, elle est 5 fois moins élevée que ce qu'on pense
Oui, voilà,
aujourd'hui,
elle
quoi.
est. Ouais, c'est ça. Par exemple, on voit bien que Newton, même si c'est plus vrai dans un sens, c'est toujours utile pour envoyer des fusées, ou je sais pas. Donc voilà, il y aura toujours un moyen de. comment dire, de se dire qu'on est soit près du réel ou qu'en tout cas les énoncés scientifiques sont utiles à faire quelque chose,
Ouais,
quoi.
c'est ça. Alors après, pour revenir un peu au scepticisme scientifique, c'est aussi probablement plus difficile à définir que le scepticisme antique, parce que finalement, il y a une longue histoire du scepticisme scientifique. Il y a eu du scepticisme qui est plus ou moins scientifique à plein d'époques. Ça regroupe quand même finalement pas mal de principes ou de postures différentes. Je pense qu'il y a
Ouais, c'est vrai.
d'abord il y a une posture plutôt épistémologique qu'on peut approcher du réel relativement bien via la méthode scientifique. Ça, c'est une chose qui est, je pense, vraiment qu'on peut généraliser pour le scepticisme scientifique. Il y a, pour la plupart des gens, enfin, j'imagine qu'il pourrait y avoir des exceptions, moi je pense qu'elles sont peu nombreuses, mais a priori, la plupart des sceptiques adhèrent aussi au matérialisme, le fait que les choses se retrouvent dans la matière, quoi, hein. Il y a pas no notre âme n'est pas interconnectée dans une conscience
Oui,
collective
ouais.
qui plane au-dessus de la Terre, comme
Ah, ça, y en a
certains
encore qui.
pensent.
Enfin, en tout cas, dans la philosophie des sens, la philosophie des sciences, des philosophies de l'esprit, il y a des dualistes encore
Oui, tout à
bien.
fait, voilà, c'est ça. Mais je pense
Ouais.
ne se présenteront pas comme adhérents au scepticisme scientifique.
Oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça,
Et voilà, après, beaucoup de. Il y a aussi. Ça, c'est pas un prérequis, mais aussi, du coup, je pense que ça découle des deux premiers. Il y a beaucoup de sceptiques qui sont aussi athées ou du moins plus ou moins agnostiques. Même si là, je connais des exceptions, je connais des sceptiques qui sont croyants. Et c'est pas en soi une incompatibilité non plus. Mais c'est vrai que c'est
Oui,
plus
voilà,
une tendance,
juste qu'on
quoi.
va, ça va être deux sphères différentes de
Oui, c'est
rationalité,
ça.
en
C'est
fait,
ça
entre
parce
guillemets, enfin,
que
sans vouloir les équivaloir, mais
oui, c'est
ouais.
ça. Après, ça dépend quel type de foi ils ont. S'ils pensent
Oui, c'est
que
ça, ouais.
Jésus a fait des miracles et a ouvert la mer en deux, là, c'est plus problématique pour être dans le matérialisme ou dans le scepticisme scientifique. Mais après, s'ils ont une croyance dans une cause première,
Oui, c'est ça,
divine, ça rentre pas en conflit avec quoi que ce soit d'autre, quoi. Mais voilà. Et après, il y a aussi ce principe allez, comment est-ce qu'on disait ça? De ne pas juger directement, donc réserver son jugement.
Ouais, c'est ce qui serait hérité du scepticisme antique, en fait,
Ouais, c'est ça.
pour le
Donc ça,
coup.
c'est un peu récupéré. Maintenant, je me suis toujours, j'ai toujours été un peu moi-même sceptique de cette idée-là. Elle est fort mise en avant par les sceptiques eux-mêmes et par les zététiciens, enfin par les associations zététiques en France. Mais après avoir pratiqué comme le scepticisme pendant pas mal d'années et étant. Enfin voilà, je suis assez actif dans le mouvement, je connais beaucoup les gens de ce côté-là. J'ai quand même l'impression que c'est parfois un peu plus un principe qu'on met en avant, mais qu'on n'applique pas forcément beaucoup. En fait, je crois de moins en moins à ce principe de réserver son jugement. Je pense que c'est plus pour moi un principe de travail, c'est-à-dire qu'on essaye, quand
Ouais,
on écrit
c'est vrai,
un billet par exemple, de
ouais.
présenter des arguments en réservant notre jugement. Mais je crois plus vraiment aujourd'hui au fait que les gens vivent vraiment ce principe, en fait. Je pense que dans beaucoup de cas, c'est plus une. Je veux pas dire une hypocrisie, mais un truc qu'on dit mais sans vraiment le vivre, quoi. Parce que je vois pas aujourd'hui, avec le parcours que j'ai, je vois pas vraiment comment, dans des situations où on est touché par un sujet ou impliqué dans un sujet, où on a déjà une vision du monde qui est en lien avec le sujet, je vois pas comment, d'un point de vue cognitif, quel sens ça peut avoir de dire qu'on va réserver son jugement. Je pense que d'un point de vue cognitif, quand on comprend un peu la psychologie, je vois pas quelle place ça peut avoir, ce principe. Parce que dès que tu abordes une situation, tu l'abordes avec déjà toute une série de connaissances et une vision du monde préalable. Donc si quelqu'un te dit ben on va parler des ovnis, ben voilà, tu as déjà une vision des ovnis et même avant de commencer le débat, tu sais déjà ce que tu en penses. Donc réserver son jugement, ça m'a toujours un peu perturbé ce principe, quoi. Et pareil pour le scepticisme antique. Cette idée tu la présentais d'ailleurs tout à l'heure, un peu de partir du principe qu'on ne peut pas vraiment connaître les choses, donc qu'il n'y a pas d'avis ou pas de posture sur la réalité des choses. J'ai du mal à imaginer comment un être humain peut vivre ça d'une manière psychologique, en fait. Et
Ah
donc.
oui, c'est effectivement. Je pense que c'est un des arguments d'ailleurs. C'est C'est du
C'est
coup
ça,
ça,
c'était un des contre arguments, oui, tout à fait.
ça invite à ne plus rien faire en fait, enfin à ne plus bouger, si on est sûr de rien. Enfin, en tout cas, si on
Oui.
n'a aucune position sur le monde, effectivement, au niveau pratique, bah voilà, il n'y a rien de possible. Donc,
Oui, c'est ça. Et donc du coup, c'est un peu la même chose que ici avec le scepticisme, enfin les zététiques. C'est un principe qui est plutôt un guide de pensée dans certaines situations, mais qui n'est pas vraiment une posture qu'on applique en fait. On l'applique dans certains cas, mais on ne la vit pas, quoi. On l'applique pas dans notre pensée, elle n'est pas appliquée. C'est un outil, quoi. On l'applique quand on écrit un billet, par exemple.
Ouais, c'est ça, oui.
Mais on ne
Ouais,
l'applique pas
c'est
au
vrai.
niveau de la pensée. Et je ne vois pas comment on pourrait l'appliquer au niveau de la pensée, parce que c'est une négation de tout ce qu'on connaît du fonctionnement même de la pensée, quoi.
Ah oui, et puis ça demanderait un contrôle cognitif extrêmement important, c'est-à-dire veiller toujours à ne pas, enfin à suspendre son jugement en fonction de telle situation, qu'on soit sur
Oui, c'est ça. Et
du descriptif ou du normatif,
c'est
ou enfin
ça,
voilà, c'est
ouais.
extrêmement difficile. Ouais.
Bon, ça amène un certain paradoxe un peu tordu aussi, qui est que si on doit suspendre son jugement pour tout, bah alors qu'est-ce qui fait qu'on déciderait d'appliquer de manière hyper difficile et hyper radicale le fait de toujours suspendre son jugement cognitivement, si on n'est pas certain de la réalité des choses? Du coup, pourquoi est-ce qu'on serait certain de la validité de ce propre principe, quoi?
Ah oui,
S'il n'y a
oui.
pas de données pour le valider, puisqu'on ne peut pas connaître les données,
Bah c'est pour ça
ça tourne
que
un peu
ouais,
en rond, quoi.
ça me fait penser, enfin pour rentrer un peu dans les détails des philosophes, mais il y avait deux écoles sceptiques en fait. Il y avait des sceptiques un peu plus indépendants, on va dire, et les sceptiques. Des sceptiques que les autres sceptiques n'appelaient pas sceptiques, mais en gros c'était les sceptiques de l'académie, c'est-à-dire l'académie qui avait été créée par les platoniciens. Mais bon, après, pour les quelques siècles après, c'est des sceptiques qui sont arrivés à diriger cette école-là. Et ces sceptiques-là, ces sceptiques-là de l'académie affirmaient qu'on ne pouvait pas savoir quelque chose. Ou en tout cas qu'on ne pouvait pas juger quelque chose. Donc c'est presque auto-réfutant. Et les autres sceptiques, on va dire qu'ils étaient un peu plus cohérents, ils disaient que bah, on ne peut pas affirmer qu'on ne peut pas affirmer. Enfin, mais pour le coup, ça renvoie après à une mise en abîme. C'est-à-dire quand on affirme qu'on ne peut pas affirmer, on finit toujours par... Bon, voilà. Du coup, ça renvoie à
Ça.
différents courants sceptiques au sein du...
Ouais. Maintenant, comme principe de travail, je pense que c'est un bon principe parce que, notamment par rapport purement à la communication et au respect des autres, bah, si on débat avec quelqu'un et que la personne voit d'emblée qu'on a déjà un avis qui est rigidifié et qu'on n'est pas prêt à changer d'avis, en fait, ça pourrit le débat. Donc, d'un point de vue
Oui, c'est sûr,
communicationnel, c'est un principe tout à fait pertinent dans un débat, quoi. On doit au moins accepter. Si on n'est pas prêt à accepter aucune remise en question, bah ça sert à rien de faire des débats avec les gens.
Ah
C'est
bah
des
oui, bien sûr.
pseudo-débats, quoi. Donc,
Oui, là, on est dans le dogmatisme, dans le sens
c'est ça, voilà.
vulgaire du
Et on
terme,
fait
c'est
beaucoup
sûr.
ça, hein. Je pense que il y a beaucoup de débats ne sont pas des débats, hein. Et
Oui, c'est
même pour
sûr.
nous, pour les sceptiques, même si ce principe est souvent mis en avant, suspendre son jugement, etc., je ne suis pas convaincu qu'il y a beaucoup de sceptiques qui débattent avec des tenants. Qui mettent en avant les preuves d'un phénomène paranormal, par exemple, et qui sont pas déjà convaincus de base que c'est juste de la foutaise, quoi, hein. Et donc ils débattent pour être polis ou pour se plier à leur principe qui dit qu'il faut débattre, mais en fait ils sont déjà pas prêts à changer d'avis, quels que soient les arguments qu'on va leur donner, quoi.
Bah, après, c'est extrêmement compliqué de... Je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, le fait de vouloir aller débattre, effectivement, je pense qu'il y a l'idéal d'accepter de changer de position, parce que sinon le débat est pas réel. Mais après, le débat peut être aussi pensé comme une confrontation des idées. Et si on se décide d'aller débattre, c'est parce que, enfin, en tout cas, la motivation qui va nous pousser à aller débattre, c'est l'idée qu'on a déjà un avis arrêté, en tout cas, plus ou moins arrêté sur une question, et qu'on va effectivement essayer de faire changer l'autre d'avis sur cette question. Et donc, paradoxalement, il y a l'idée que du coup, il faut être prêt à accepter de changer d'avis, mais en même temps, c'est cet avis-là qu'on a dès le départ qui va nous motiver à débattre, en fait. Donc voilà, il y a toujours comment démêler les choses, bah voilà,
Ouais,
c'est pas facile.
c'est une vision tout à fait intéressante ce que tu dis. C'est vrai que si ça donne aussi une motivation à aller confronter ses idées. Et tant qu'on est prêt à prendre en compte au moins les arguments pour essayer d'y répondre, parce qu'à ce moment-là, même si on est convaincu de notre vision du monde, bah, si on se trouve face à des arguments et qu'on se rend compte qu'on ne sait pas y répondre, Là, si on a un
Oui,
minimum d'honnêteté, on va
c'est
aussi
ça.
se dire qu'il y a un
Oui,
peu un problème avec ce qu'on raconte, quoi,
l'honnêteté
potentiellement.
intellectuelle, c'est sûr que ouais, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement,
C'est ça.
pour le coup.
Et du coup, ça me faisait repenser un peu à autre chose, mais je repensais un peu aux relativistes, notamment, hein, donc, qui disent qu'on ne peut pas connaître, tirer des conclusions sur la réalité des choses. Je repensais à une conférence qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, donc ici à Bruxelles, on organise des conférences tous les mois à Sceptics in the Pub. On avait eu Jean Bricmont il y a pas longtemps, je ne sais pas si tu vois qui c'est Jean Bricmont. Il était venu parler justement du postmodernisme et du relativisme cognitif. Et du coup, une des questions qui avait été abordée et qui c'était vraiment le débat avait été vraiment intéressant, c'était de se dire, est-ce que finalement ça existe vraiment des gens qui sont relativistes? Et
Je vois,
c'était.
c'est une question
Ouais. Ben comme pour les
tu
sceptiques, en fait, hein, comme pour les sceptiques antiques,
Oui,
c'est un
bien
peu
sûr,
la même idée. Et c'était intéressant parce qu'évidemment, comme il avait écrit un bouquin là-dessus, là, son livre qu'il avait écrit avec Alain Sokal il y a pas mal d'années, que tout le monde connaît, il avait donné pas mal d'exemples. C'était assez documenté comme livre. C'était pas juste on donne notre avis sur les choses, et puis voilà, il y avait plein d'extraits d'auteurs, et il en a cité plusieurs pendant la conférence. Et on voyait finalement qu'il y avait des penseurs, des philosophes, des écrivains qui défendaient vraiment à certains moments des postures tout à fait relativistes au sens où on le définit. Mais que c'était au cas par cas. C'est-à-dire
C'est
qu'ils étaient
ça,
relativistes à un moment
complètement.
et ils ne l'étaient plus pour un autre. Et donc du coup, on est arrivé à se demander, mais même les gens qu'on qualifie de relativistes, est-ce que finalement ça nous apprend beaucoup de dire qu'ils sont relativistes? Parce qu'il y a plein de situations pour lesquelles ils ne sont pas relativistes. Hein,
Ouais, non,
sinon,
c'est une bonne question parce que comme tu dis, est-ce que ça nous apprend beaucoup? Est-ce que du coup, quand on va voir ce qu'on appelle relativistes, est-ce que du coup on se pose les bonnes questions au final? Parce qu'effectivement, ils vont pas être. Enfin, quand j'ai travaillé un peu sur le postmodernisme, le postmodernisme est souvent, quand on l'attaque, synonyme de relativisme, de relativiste. Et enfin, je me suis posé la question. Enfin, à part ceux peut-être qui vont aller trahir Foucault, Derrida ou je sais pas quoi pour, comme je disais, pour faire de l'esbroufe radical chic. Enfin, je sais pas comment dire, mais radical théorique. Mais personne, enfin concrètement, peut défendre une position relativiste, que ce soit. Alors peut-être au niveau moral, mais c'est le faire tenir, c'est extrêmement difficile. Mais en tout cas, au niveau purement descriptif, de jugement de fait,
Au
ça,
niveau
enfin voilà,
moral, c'est
c'est.
peut-être un peu plus négociable, mais c'est vrai qu'au niveau des faits, c'est impossible, quoi. Tu peux pas.
Voilà, ça.
Peux
Sinon,
pas.
forcément, il y a l'auto-réfutation et aucun relativiste prétendu ne veut. Il y avait un philosophe qui était pas du tout relativiste au début de sa vie et puis qui l'est devenu, enfin en tout cas relativiste. Qu'on va dire, c'était Hilary Putnam. Et effectivement, lui, il essayait de tenir une position, en tout cas entre un soi-disant relativisme total, que je pense n'est tenu vraiment par personne, du coup pour le coup. Et un réalisme scientifique, enfin pas forcément réalisme scientifique, mais un réalisme en disant que oui, il y a une réalité, ou d'un énoncé, d'un point de vue descriptif, il y a quelque chose qu'on peut affirmer avec certitude. Mais voilà, je pense que les penseurs qu'on appelle relativistes, en tout cas, vont toujours, peut-être ils vont pas réussir, mais ils vont toujours essayer de trouver un moyen en disant que ce qu'ils disent est vrai et qu'ils ne s'auto-réfutent pas en disant qu'il y a des choses qui sont relatives, enfin en tout cas qu'on
Ça,
peut pas.
tout à fait. Tout à fait. Alors, après, c'est vrai on peut trouver des passages, des auteurs qui sont qualifiés de relativistes, où effectivement, ils défendent envers et contre tout des positions qui sont vraiment dans un déni des connaissances scientifiques. Pour toute personne qui adhère un minimum à la méthode scientifique, ça paraît être parfois des positions absurdes. Il y avait des extraits notamment de ce que racontait Bruno Latour dans ses livres. Des trucs parfois juste hallucinants, quoi. Donc il y a effectivement quelque chose derrière cette étiquette de relativisme, mais c'est plus un continuum, en fin de compte, que quelque chose qui est actif ou pas actif, si on est relativiste ou pas.
Et puis je
Et
pense
en.
que... Attends, je termine, excuse-moi,
Ouais,
je...
et en plus, pour revenir au postmodernisme, quand on voit tous les auteurs qui sont mis sous cette étiquette, Je veux dire, entre un type comme Lacan ou Derrida d'un côté et puis Foucault de l'autre, c'est quand même assez difficile de voir, de pas voir les différences entre les deux, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui défendent, qui écrivent d'une manière quand même très différente, même s'ils ont
Oui, et
des
puis qui
points
s'intéressent pas
communs.
aux mêmes
Mais
objets, enfin,
non,
forcément,
pas du
donc
tout,
voilà.
pas du tout. Et franchement, bah, t'avais fait une vidéo là-dessus, mais personnellement, moi, j'ai aucune adhérence au relativisme en soi, mais par exemple, j'aime beaucoup Foucault, quoi. Je trouve que Foucault, si on écoute ce qu'il explique sur la justice, qui est le secteur dans lequel moi je travaille, en deux mots, j'ai un cabinet de thérapie, mais le reste du temps, je travaille dans une boîte qui bosse sous contrat des juges avec des mineurs délinquants. Enfin, donc je suis un peu tout le temps lié dans ces trucs-là, autour des jugements, des ordonnances, des avocats, etc. Et quand on lit, je trouve ce que dit Foucault dans Surveiller et punir, par exemple, c'est encore très contemporain, quoi. C'est-à-dire ça. Les critiques, elles ont pas pris une ride. D'abord, il y a des critiques qu'on peut lui faire à lui, mais
Oui, ça, bien
on est
sûr.
loin d'avoir un type qui sortirait une sorte de baratin comme ça, symbolique, où on comprend rien. Pas du tout, quoi. Je veux dire, il y a plein
Oui, ça,
d'idées.
Foucault a cette qualité, enfin, pas tout le temps, mais en tout cas d'être assez lisible, contrairement à Derrida. Ou... C'est ça, ce qui me faisait penser à tout à l'heure, c'est aussi si ces auteurs peuvent être attaqués si facilement, entre guillemets, c'est un petit peu peut-être de leur faute et à leur manière d'écrire, parfois, enfin, de manière... jargonnante et difficile, et voilà, c'est difficile après d'aller faire la part des choses entre ce qu'ils ont voulu dire et puis la forme qu'ils ont été mettre. Alors, ces auteurs, Derrida, ils vont aller justifier la forme, ou Judith Butler, par exemple, elle va justifier la forme dans le genre de l'écriture extrêmement difficile de son livre en disant que ça a une vertu théorique ou pratique, parce que ne pas utiliser la grammaire de manière, en tout cas, compréhensible par tout le monde, c'est aussi une manière de lutter contre l'hégémonie d'une grammaire dominante. Enfin, là, je caricature, hein, c'est un peu ce qu'elle dit. Mais voilà, il y a aussi un souci de si le débat est difficile et que la compréhension est difficile avec ses auteurs ou entre d'autres, c'est que chacun a ses manières d'écrire différentes et d'autres font pas d'efforts pour être facilement lisibles. Et ça, c'est
Tout à
ce qui est
fait.
dommageable. Quand j'ai voulu présenter Derrida,
C'est chaud.
voilà, comment essayer de le présenter d'une manière qui soit à la fois fidèle, ce qu'il n'aurait pas voulu lui-même, alors je sais pas pourquoi, enfin peu importe, et en même temps, clair pour tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est pas
C'est
forcément.
difficile, surtout que c'est des auteurs. Foucault disait clairement qui avait un peu le souhait que leur personne s'efface par rapport à ce qu'ils disaient. Donc ils n'avaient pas envie qu'on les présente eux-mêmes, qu'on attache quelque chose de ce qu'ils sont eux-mêmes à leur discours, justement. Du coup,
Ah oui,
c'est
Foucault, oui,
délicat
c'est sûr que...
de les présenter, évidemment, quoi. Oui, s'il y a une chose qui est positive, que moi je retiens du courant, enfin de ces auteurs postmodernes, c'est que ils avaient quand même comme idée de montrer certains problèmes dans les discours de leur époque. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on peut difficilement leur enlever, parce
Oui,
qu'il
c'est
y a quand
sûr,
même eu
c'est leur
beaucoup
vertu.
de dérives dans les discours scientifiques de l'époque, des dérives qui ont servi à valider le racisme, l'esclavagisme, les discriminations, à prouver que les Noirs étaient moins intelligents parce qu'ils avaient des petits cerveaux ou des visages différents ou plein d'autres justifications des plus farfelues qu'on pouvait trouver. Et tout ça en disant, ben voilà, c'est prouvé par des faits, c'est de l'objectivité. Et voilà, et il y a eu plein de quand même de dérives. Alors, je cite des exemples très, très graves, mais il y a d'autres
Oui,
exemples
d'autres choses
évidemment moins
plus.
graves, où on présente des choses simplement comme des faits encore aujourd'hui, d'une manière qui instrumentalise un peu la science pour des raisons politiques. Et
C'est ça où on est dans le. Ouais,
une
c'est
chose
ça.
qu'ils ont fait, c'est de dénoncer ces discours, et avec quand même pas mal de justesse. Donc ça, c'est quand même une chose, je pense, qu'on peut leur laisser et qu'on peut apprendre de certains de ces auteurs, même si on peut les critiquer par ailleurs, quoi.
Ouais, pour le coup, ça rejoint un peu l'idée que si on les considère comme postmodernes, hein, si on décide de se dire, voilà, dans un sens positif, c'est de dire que voilà, ils ont cette vertu de montrer que bah, ceux qui présentent sous des atouts du progrès, du modernisme, etc., a des effets pervers et des effets indésirables, et que du coup, bah, ces auteurs bah, peuvent nous aider à du coup nous défaire de ces effets indésirables pour justement aller vers du progressisme en tout cas réel et pas quelque chose où dans le progrès au final on retrouve une domination. Voilà, donc je pense que c'est de cette manière, si on veut définir de manière positive le postmodernisme.
C'est ça.
Après, ça pose encore plein de problèmes hein,
Oui.
que j'utilise encore ce terme. Mais voilà, si on veut dire que ces auteurs sont postmodernes et de manière positive, on peut le présenter comme ça, quoi.
Bien sûr, ça nous rappelle aussi qu'une fois qu'il y a un discours dominant avec beaucoup de consensus, bah, le discours est aussi susceptible de dévier et d'être un peu manipulé facilement, puisque comme on est tous plus ou moins d'accord sur la posture, bah, quand il y a des erreurs ou des petites instrumentalisations, bah, du coup, on ne va pas facilement les relever parce qu'on n'est pas
Oui, c'est ça, ouais.
dérangé, quoi.
Ouais,
Hein, c'est ce qui s'est passé, je pense, avec beaucoup de questions autour du racisme. Hein, comme c'était normal, entre guillemets, pour beaucoup de blancs à une certaine époque d'être raciste, bah, du coup, quand on faisait des raisonnements fallacieux en instrumentalisant des études scientifiques toutes pourries, bah, ça dérangeait pas grand monde et donc c'était pas relevé, quoi.
Oui, voilà, du coup, on faisait des énoncés scientifiques faux, mais qu'on considérait comme vrais, et pour le coup, on en inférait des énoncés. Normatif, c'est-à-dire bah, parce qu'on fait un énoncé de type il y a des races et les races sont inégales entre elles biologiquement, on va inférer que l'inégalité biologique doit se refléter dans la politique ou
Ouais,
etc.
c'est ça.
Là, pour le coup,
C'est
tous
ça.
les
Et comme on peut
même
prendre
problème.
tellement de critères différents pour mesurer ou montrer une inégalité entre des groupes, bah si on veut faire ça, on trouvera toujours quelque chose pour y arriver, quoi. Ok. Bah voilà, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets.
Bah
Je
ouais,
propose qu'on...
c'est riche. Je pense qu'on pourrait continuer encore
Oui, voilà.
pendant des heures. Hein,
On pourrait continuer longtemps. Maintenant, pour
c'est
préserver
super
un
riche,
peu la santé mentale de nos
ouais.
auditeurs, on va pas faire trop long non plus.
Oui. Ouais.
Alors, je vais juste terminer en citant quelques thèmes de tes vidéos, juste
Ouais.
pour ceux qui connaissaient pas du tout la chaîne à la base, parce qu'il y a vraiment plein de thèmes très chouettes. Donc, tu as une vidéo, par exemple, qui présente le libertarianisme. Tu as une vidéo qui présente ah, je ne sais jamais prononcer ces trucs. Libéralisme
Ah oui,
politique de John Rawls.
deux rôles, ça c'était
Voilà,
ma
si vous ne
première
connaissez
vidéo.
pas, c'est vraiment chouette. En plus, y a derrière ça une expérience de pensée philosophique qui est vraiment intéressante si on aime bien la philo. Tu as fait aussi une vidéo sur l'anarchisme individualiste. Il y a des auteurs comme Spinoza, comme Nietzsche qui sont traités aussi. Il y a des questions très contemporaines. Faut-il abolir le travail? Ça va plaire à beaucoup de gens.
Oui. Bah sur le...
Il y a cette vidéo sur Butler aussi,
Ouais,
sur
dernièrement,
son livre Troubles dans le genre. Donc il y a une vidéo plutôt sur le féminisme. Et puis il y a ces vidéos dont on a parlé, la déconstruction sur Derrida, le postmodernisme. La vidéo sur le
postmodernisme.
postmodernisme remet vraiment bien les pendules à l'heure sur ce sujet. Et voilà, il y a plein d'autres thèmes encore que vous pourrez voir donc sur la chaîne Politicon sur YouTube. Voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'était très
Bah, enchanté,
intéressant.
merci de même. Hein. C'est vrai que c'était. Ouais.
Voilà, et donc.
Comme je disais, hein, on pourrait aller encore des heures, c'est vrai que c'est passionnant, quoi.
Oui, c'est ça, on pourrait continuer pendant des
Ouais.
heures. Il y a plein de thèmes, évidemment, super intéressants. Voilà, bah, j'espère que ça aura pu, en tout cas, intéresser des personnes qui ne connaissaient pas ta chaîne. Parce qu'il y a plein de chouettes choses à découvrir. Et ben voilà, je te remercie d'être venu dans cette interview et
Ok,
je te
bah
dis
merci aussi.
à bientôt alors.
À bientôt.
Bye bye.